écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 12 août 2013 avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex. Nous aborderons tout d'abord l'actualité internationale. As-tu un sujet sur lequel tu souhaites mettre l'accent?
Non, allez, je te laisse le soin de cette redoutable épreuve.
C'est pas une épreuve du tout. Ça va être très simple.
D'autant que nous, on fait pas du sensationnel. Donc on n'a pas trop de.
Eh bien, pourtant, du sensationnel, il y en a, parce que quand les Israéliens déclarent qu'ils veulent entendre qu'ils sont prêts à reprendre les négociations, quand ils ont même négocier la libération de 26 prisonniers en échange de ce démarrage de négociation, ça a été géré par Kerry il y a quelques semaines, eh bien, il s'arrange en même temps pour torpiller le processus et effectuer un travail de sape en annonçant comme contrepartie, la construction de 1200 nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Un détenu vaut 46 logements dans le barème de change israélien, si on doit les en croire. Alors, ce faisant, bien sûr, ils rendent service à personne, puisque Mahmoud Abbas, qui cherche à normaliser un peu les relations et qui pouvait se satisfaire quelque peu pas du déclin, mais de la mauvaise position dans laquelle se trouvait le Hamas, hein, qui perd ses soutiens et qui a des difficultés diverses du côté de l'Égypte et de la Syrie. Et voilà qu'avec ces 1200 logements annoncés en Cisjordanie et à Jérusalem, le Hamas va pouvoir se refaire une santé militante là-dessus, quoi. Enfin, c'est cette semaine que, soi-disant, reprennent ces négociations dont on ne sait pas trop comment ça va se passer. Enfin, reprennent, c'est un grand mot, c'était des réunions pour mettre en place ce calendrier. Voilà, tu avais peut-être quelque chose à ajouter sur ce sujet?
Oui, c'est-à-dire que ce comportement sadique des autorités israéliennes n'est pas nouveau, mais se situant à la veille de cet espoir de reprise de discussion, eh bien c'est vraiment, comme tu l'as expliqué, vouloir torpiller toute initiative une fois de plus. Et on sait que la politique globale d'Israël, c'est pas de paix dans la région, pas d'entente possible, c'est la guerre qui justifie ce que nous sommes. Voilà, c'est les séquelles d'utilisation de ce que fut l'affreux moment de la Shoah, et que maintenant on manipule l'histoire pour s'en servir à des fins qui n'ont rien à voir avec les intérêts propres des Israéliens et des Juifs en général.
Eh bien, justement, tiens, puisqu'on parle de la Shoah en annexe, on rappellera ce décès aujourd'hui en Hongrie d'un certain Lalo Csatiri, un des derniers criminels nazis après lesquels la justice courait encore. Il semblerait que sur les 6000 répertoriés après la guerre, il en reste une soixantaine en vie. Celui-là était recherché depuis longtemps, était responsable du ghetto juif de Kocsiszé. Et il s'était planqué au Canada. En 1995, il avait été démasqué, il avait été revenu en Europe, et en 2011, il a été arrêté. Son procès devait démarrer le 26 septembre. Il a jugé plus utile de faire une maladie qu'il a tuée ces jours derniers. Voilà, un de plus qui disparaît. Il est évident qu'avec la période, ils vont bientôt tous passer à l'as, mais enfin 60 encore en vie, plus ou moins recherchés, avec, c'est assez curieux ça, une prime pour qui permettrait de mettre la main sur un de ces individus de 25 000 euros par nazi démasqué. Drôle de méthode, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Autre sujet peut-être?
Oui, on évoquait la semaine dernière, et je pense que d'autres collègues de CANU l'ont fait dans la semaine, peut-être, c'est effectivement volonté des Américains, des États-Unis, de la CIA et puis d'Obama, finalement, qui trouve sans doute son compte actuellement, de s'installer durablement du côté du Yémen et de l'Arabie Saoudite, puisque on procède au nom de la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité à l'élimination systématique par la politique des drones, l'élimination de supposés terroristes ou simples opposants qui au Yémen. Pourquoi le Yémen? Tout le monde s'interroge un peu. En fait, le Yémen, c'est peut-être effectivement là où la discussion de pouvoir est la plus forte. Et donc, l'idée que c'est au Yémen que se constituerait le nouveau centre terroriste d'islamisme radical est utilisée par les Américains pour... on l'a dit, pour consolider leur présence policière en voisin de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire de l'allié principal, et puis pas très éloigné non plus d'Israël, cet autre allié principal.
Ça cartonne, hein, parce qu'en 3 jours, ils ont tué 15 membres soi-disant d'Al-Qaïda avec les drones, quoi. On comprend qu'ils soient portés à fermer leurs ambassades par crainte des représailles, quoi. D'ailleurs, celle de Sanaa, je crois, est toujours restée fermée.
Voilà. On peut se demander pourquoi à l'ONU, la commission qui s'occupe des armes, et qui, par exemple, a mis bien longtemps, par exemple, pour que les armes de type bombe à retardement, enfin, tout ce qui tue du monde pendant ou après les conflits, ne s'interroge pas. Enfin, on pense que la question est posée du bon usage, ou plutôt de l'usage légal des drones. Mais pour l'instant, avant qu'une réponse intervienne, il y aura sans doute pas mal d'utilisation qui sera faite au nom de la lutte antiterroriste.
Voilà, autre sujet, la Tunisie, où il se passe des choses. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure qu'il est, mais une rencontre, des négociations, c'est peut-être pas le mot vraiment adapté, en tous les cas une réunion doit avoir lieu, c'est demain, je crois, entre Ennahda et l'UGTT. Alors, on a envie de se dire quel rapport, l'Ennahda, parti politique islamiste, l'UGTT, premier syndicat et syndicat puissant, pas spécialement marqué du côté de l'islamisme. Et pourquoi? Eh bien, pour essayer de trouver une solution à la crise, puisqu'en fait, l'UGTT est plus qu'un syndicat en Tunisie. De par sa représentativité, il a tendance à jouer un rôle politique, et l'UGTT demande pour le moment l'abandon du pouvoir par le parti Ennahda. On peut penser qu'ils auront peut-être du mal à l'obtenir, mais s'ils arrivent à définir un accord, peut-être une participation différente des différentes tendances au niveau du gouvernement, il y a une petite chance que ça fonctionne, quoi. Alors, à cette réunion devrait être associé aussi le président de l'Assemblée constituante, Benafar, qui va y participer.
Avec le risque de faire éclater l'UGTT. C'est un syndicat très politisé depuis très longtemps, plutôt à gauche, voire certains même l'estiment beaucoup plus à gauche que beaucoup de syndicats occidentaux, par exemple, et que s'introduisant dans le pouvoir, il risque d'y perdre beaucoup plus qu'il ne pourrait y gagner, et surtout faire gagner la cause des de l'ensemble du peuple tunisien qui, jusqu'à présent, sur le plan social, n'a rien vu arriver. Et puis, une coalition UGTT NERDA ne semblerait pas, à moins de promouvoir une véritable révolution sociale, bon, si c'est ce que veut obtenir l'UGTT, bon, elle peut toujours effectivement faire la preuve qu'elle ne l'obtiendra pas. Mais le risque est grand qu'elle produise des effets internes très, très importants.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation de blocage aujourd'hui entre les islamistes de Narda qui revendiquent haut et fort leur prédominance et puis le reste de la population qui réclame leur éviction du gouvernement. Avec la même radicalité, quoi. Donc, comment la Tunisie peut-elle retrouver un équilibre, une sérénité pour une vie à la fois sociale, économique, administrative, paisible? On n'a pas l'impression d'être à la veille de ce jour-là. Allez, un mot du Mali, puisque on ne sait pas le résultat, bien qu'il ait un petit peu couru d'avance, puisque les médias français prennent beaucoup d'intérêt à cette élection. Il semble que c'est peut-être un peu sur ordre, puisque c'est le fleuron de l'action de notre président de la République. Il faut bien le valoriser un peu, même si visiblement ça n'intéresse pas beaucoup les Français. Donc deux personnages a priori respectables, Ibrahim Moubacar Keïta, dit IMB, devrait remporter cette élection. Déjà la semaine dernière, on pouvait s'en douter sur la base de l'arithmétique électorale. Mais ça ne présume rien sur ce qu'il en sera de la vie politique unitaire de ce grand pays, profondément divisé géographiquement, ethniquement, socialement, militairement. Et donc on veut dire que même s'il y a un président élu dans les règles démocratiques, rien n'est réglé pour autant dans le pays.
Oui, avec... y compris hier, là-dessus on n'a pas d'éléments, mais des rumeurs de fraude qui étaient devenues inévitables, parce que cette élection s'est préparée vraiment dans d'énormes difficultés, notamment pour faire voter les Maliens de l'étranger, pour faire voter les Maliens du Nord. Bon, à Bamako, le scrutin semble effectivement s'être déroulé normalement, mais Bamako, ça n'est pas toute la communauté malienne. Et la discrétion, finalement, que l'on observe sur ce qui pourrait être les irrégularités, les manipulations sur le scrutin, s'explique, parce qu'il faut bien comprendre que là, on est peut-être devant une opération menée de main de maître par l'international socialiste. Parce que l'international socialiste, eh bien, aussi bien le parti du président prochainement élu, Keïta, que le parti de celui qui lui apporte le soutien, c'est-à-dire Dembélé, avec ses 10%, donc 39, 10, 50, bon, ça dépasse déjà un peu les 50, eh bien, ces deux partis sont membres de l'international socialisme. Alors, on voit bien que, finalement, la discrétion est de mise et que, finalement, le Parti socialiste français est aussi international socialiste, tout ça. C'est important de voir les choses comme ça. Bon, et en même temps, bon, ce socialisme-là, pas plus au Mali qu'en France, ne propose la révolution. Mais c'est quand même par rapport à la droite, dont au Mali, par exemple, les intérêts sont davantage portés par l'ancien ministre des Finances, Cissé. Eh bien, effectivement, elle est dans le débat politicien, elle sera battue. Et peut-être que l'international socialiste va devoir pavoiser discrètement d'une opération bien menée par son maître, non pas à penser, mais par l'un de ses principaux tuteurs, c'est-à-dire le Parti socialiste français et le président de la République, François Hollande.
Un mot de...
Mais effectivement, oui. tu n'avais pas évoqué le problème du Nord avec la négociation inévitable avec les Touaregs du MNLA autour de Kidal et qui bon, le Mali, c'est pas un État centralisé, donc faut pas que les socialistes maliens prennent cette habitude des socialistes d'un peu partout de vouloir toujours tout centraliser. Alors là, on va voir ce qui va se passer dès la semaine prochaine.
Un mot de l'Égypte, où la situation aussi est tendue, puisqu'on sait que les islamistes, donc opposés à l'éviction de Morsi, ont occupé deux places, et occupé nuit et jour, des milliers de personnes. Donc, alors les militaires, le nouveau pouvoir, les a sommés de dégager les lieux. L'ultimatum, c'était ce matin. En fait, il y a eu simplement un peu plus de monde pour... occuper les places, et du coup l'armée n'a pas cherché l'affrontement et a reporté l'ultimatum de deux semaines, je crois, avec des menaces d'intervention, mais pas de suite pour le moment. On sent qu'il y a un peu de valse-hésitation du pouvoir à réprimer directement, ce qui a déjà été pas mal fait, les suppôts de l'ancien président, qui est toujours d'ailleurs retenu en prison. Alors,
et dont le maintien a été justement renouvelé. C'est un peu du donnant-donnant, on a l'impression.
Voilà. Ben Ki-moon, quant à lui, ben, il appelle à la réconciliation, si la réconciliation est possible là aussi. Voilà, tu avais d'autres sujets, enfin j'en ai d'autres aussi, mais...
Ben, c'est en traversant l'Atlantique, on évoquait hors antenne Cuba qui, la semaine dernière, fêtait les 60 ans de sa révolution, et 60 ans en grande partie sous la mainmise de l'embargo décrété par les Américains. Bon, un embargo qui effectivement n'est pas levé, mais peut-être un petit peu contourné, et surtout par exemple avec la montée des partis progressistes dans l'ensemble, dans la plupart des États sud-américains, fait que par exemple à travers l'échange pétrole dont les Cubains ont bien besoin, contre des médecins dont on connaît la réputation mondiale maintenant, les médecins cubains. Ça soulage un petit peu. Et puis, on est étonné de voir la jeunesse, entre parenthèses, hein, de Raoul Castro. Lui, je pense qu'il en a 84 ou 3, je ne sais plus, des années.
On va dire que demain, Fidel, lui, aura 87 ans, hein, le 13 août 1926, donc c'est son anniversaire, il aura franchi un cap de plus.
Ouais, lui, il continue, il est devenu une espèce d'oracle qui écrit dans Gramma, le journal, et il fait des analyses de géopolitique, et puis... S'il a perdu beaucoup de sa force physique, il n'a pas perdu de ses capacités d'analyse. Et son frère, son jeune frère, paraît en pleine forme.
Voilà pour Cuba. Cuba, Guantanamo, tiens, c'est pas loin. Oui. Il faut parler des 100 détenus qui sont en grève de la faim. Ça fait maintenant 6 mois que ça dure. Alors, on me dirait, mais ils devraient être morts depuis longtemps. Oui, sauf que les Américains ne veulent pas les laisser mourir et qu'ils les alimentent de force. C'est-à-dire qu'on les attache et puis on leur passe une sonde gastrique, comme à l'hôpital, hein, quand vous êtes... vraiment pas bien, et avec ça on les nourrit, on les maintient en vie, et donc mais ça fait toujours autant scandale, et c'est un des problèmes que Obama n'arrive pas à régler, puisqu'il s'était engagé à fermer ce centre de détention, et il en est à son deuxième mandat, et le centre de détention est toujours là.
Oui, c'est il passe à côté de beaucoup d'occasions. Par exemple, également, Guantanamo, c'est territoire cubain. Donc il y a occupation d'un territoire étranger par les Américains. Bon, on sait comment ça s'est passé, mais ça ne devrait plus être. Il est évident que les Américains devraient depuis longtemps ne plus être dans cette partie du territoire cubain. Et Obama aurait pu dire, ben, je ferme Guantanamo parce que en même temps, je négocie avec les Cubains et nous, on évacue le secteur. Eh bien non, il n'a pas franchi ce pas.
Alors Obama, restons un petit peu sur lui pendant quelques instants. On sait que il est un peu les pieds pris dans le tapis avec son programme de surveillance, du coup, devant la montée de protestations face aux atteintes à la liberté individuelle. Il a cru utile de faire une conférence de presse et il a passé de la pommade en disant que le programme de surveillance des Américains serait revisité. On peut d'ailleurs au passage dire qu'ils ont fourni le même programme aux Allemands qui l'utilisent de la même manière. Donc vous voyez, on est tout sauf pas surveillés et on ne peut pas dire qu'on ne s'occupe pas de nous, de nos mails, de nos opinions et de nos échanges d'opinions. Alors tout ça, c'est l'affaire Snowden, hein, qui c'est parti de lui, donc à qui le monde entier devrait rendre hommage. Et pourtant, cet homme est poursuivi de la vindicte d'Obama. Il a trouvé la protection de Poutine. C'est pas sûr que ce soit un chantre de démocratie et de liberté, mais enfin, ça arrange ses affaires. Il y a d'ailleurs cette anecdote marrante, parce que devant la protection offerte à Snowden par Poutine, Obama a décidé de gâcher un peu la fête à Poutine qui pensait organiser à Moscou avant le G20 de Saint-Pétersbourg, c'est bientôt, hein, début septembre.
Oui, 5 et 6 septembre.
5 et 6, oui. Et Poutine a dit, mais c'est pas grave qu'il ait annulé la rencontre, parce que de toute façon, moi, ce jour-là, j'avais déjà un rendez-vous avec Snowden. Ouais, c'est pratique l'humour. Un peu froid.
Ça oui. Pour ça, on peut lui faire beaucoup de reproches à Poutine, mais on peut pas lui reprocher de ne pas savoir utiliser l'humour.
Obama, quant à lui, me semblait préférer Medvedev, et il le dit même explicitement. On peut penser que ça va être un peu la soupe à la grimace pendant ce G20, en quelques semaines.
Allez, pour l'instant, les Russes, avec l'athlétisme, on espère que l'image restera forte, et effectivement, à la télévision, on a des belles balades dans Moscou avec les reporters français qui sont là pour vanter les mérites des athlètes français, mais qui en même temps, n'évitant pas de ressortir de vieilles affaires de la guerre froide, n'empêche, nous présente sans doute une Russie un peu différente de ce que pensent encore beaucoup de gens qui sont sous-informés de la réalité de ce pays aujourd'hui.
On dira aussi qu'en Russie, il y a les élections municipales le 8 septembre 2013, donc ça approche, avec des enjeux, entre particuliers ceux de Moscou, où le maire actuel pro-Poutine, en face de lui, un challenger, Narani, qui est un repris de justice, puisqu'il a été condamné par les soins de Poutine, on va dire, et il y a un mois à 5 ans de prison. Alors est-ce que cet homme-là va arriver à faire valoir sa candidature dans un contexte où, on le sait, tous les opposants sont passés au laminoir?
Oui, justement, avec l'effet Jeux mondiaux d'athlétisme, le maire sortant n'aura pas de mal à se faire réélire.
Voilà, d'autres sujets. Ben, j'ai cette brève sur l'Afrique du Sud où une syndicaliste s'est fait assassiner, je crois que c'est aujourd'hui ou hier. Alors on pourrait penser que c'est dans le coin où il y a eu les incidents l'autre fois, les 30 morts là, tués par la police, que c'est encore de cet ordre-là, mais il semblerait que, d'après les gens sur place, non, c'est plutôt des affrontements entre les syndicats de mineurs, l'ancien syndicat traditionnel, le canal historique, comme on dit ailleurs, CNUM, et puis d'un nouveau syndicat, l'AMCO, plus récent et qui est sur des positions plus radicales que le vieux syndicat traditionnel. Disons que s'il fallait ramener ça chez nous, ce serait sud de la CFDT. Mais enfin, nous, on n'en est pas à régler les divergences à coups d'assassinats de dirigeants. Là-bas, ils en seraient...
Mais on se souvient du drame qui avait eu lieu il y a peut-être un an maintenant, je n'ai plus la mémoire des dates, qui avait vu l'armée tirer sur les mineurs en grève dans des mines, d'ailleurs, qui sont contrôlées par des multinationales britanniques, entre autres. Et que c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'était né ce parti, ce syndicat dissident qui, effectivement, avait été visé directement par l'armée dans cette répression qui avait fait plusieurs dizaines de morts, hein, je crois, me souvenir.
Oui,
absolument. À propos de l'austérité, les Hongrois n'ont pas du tout envie de donner un chèque en blanc au social-démocrate libéral qui a été sollicité par le président pour former un nouveau gouvernement. La majorité de députés n'en veulent pas et donc les Hongrois vont sans doute devoir retourner aux urnes très prochainement. Mais c'est effectivement un point d'ancrage. On sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations également en Hongrie contre l'austérité. Et effectivement, partout, l'austérité est condamnée, non pas avec abandon un peu de l'idée que c'est la fatalité, c'est comme ça, on ne peut rien faire, etc. Même chose pour ce qui concerne la Grèce, où on voit paradoxalement le FMI proposé. Non, pour l'instant, ça n'est pas encore proposé. Ce ne serait, semble-t-il, que quelque chose en discussion au niveau de la Troïka. L'abandon de 10 milliards de dettes que les Grecs n'auraient pas à rembourser dans les années 2014 et 2015. Rien n'est fait. Bon, la contrepartie, on la connaît, c'est toujours plus de privatisation, toujours plus de réduction des services publics, donc toujours plus de chômage. Alors en espérant que ces 10 milliards basculant, n'étant plus à rembourser, comme si c'était comme ça que pouvait s'amorcer la reprise économique en Grèce. Et on sait que par rapport à cette position du FMI, les Allemands sont très... le parti au pouvoir avec Merkel, la droite, n'est pas très favorable à cette remise de dette, tout simplement parce que la droite allemande a choisi la rigueur pour préparer l'élection législative qui aura lieu le mois prochain. Hein, c'est bientôt. On sait qu'en Allemagne, il n'y a pas d'élection
présidentielle. Le 22 septembre.
Heureusement, ils ont échappé à ça jusqu'à présent. C'est élection parlementaire et puis le parti gagnant, eh bien, c'est lui qui doit assumer le gouvernement.
Puisque tu parlais
donc,
de...
pour la Grèce, pas de sortie de crise en vue pour l'instant, quelles que soient les bonnes intentions supposées, prétendument bonnes, du FMI.
Puisque tu parlais de la Grèce qui cherche à évacuer ses créances, ils cherchent aussi, ils y arrivent pas mal d'ailleurs, à évacuer leurs sans-papiers, puisqu'ils en auraient arrêté et expulsé 5000 depuis un an. Et ces jours derniers, il y a eu des gros incidents, parce que dans un centre de rétention, ils en ont aussi, bien sûr, 1200 détenus, Et on leur aurait laissé entendre que la durée maximum dans ces centres de rétention passerait de 12 à 18 mois. Alors ça a provoqué une révolte. Du coup, il y a eu des baraquements qui ont été incendiés, tout ça. Et il y a des gens qui se sont évadés. Et il s'ensuit une chasse à l'homme dans Athènes pour retrouver. Les Grecs ont l'air très remontés contre les immigrés clandestins chez eux. Bon, il est vrai qu'avec toutes leurs îles, c'est des portes d'entrée assez faciles et difficiles à contrôler, mais ils sont extrêmement rigides sur l'accueil et le séjour des étrangers dans des proportions qui dépassent largement les règles qui seraient logiques d'appliquer. L'accueil. Voilà, on n'a rien dit de l'Irak aussi, quand même. Ces derniers jours, encore 74 morts, 800 pendant le Ramadan, du fait d'attentats, apparemment, des militants sunnites qui se sentant frustrés de leur absence à la direction de l'État, donc s'en prennent d'une manière ravageuse avec des voitures qu'on fait exploser, des choses comme ça, à la population chiite. Là aussi, c'est une situation qu'on peut dire au bord de la guerre civile quand on en est à des attentats aussi multiples et meurtriers. 800 morts, ça doit faire quelques milliers de blessés en même temps. C'est tout à fait catastrophique. Voilà, Robert, as-tu d'autres rubriques internationales avant qu'on fasse
non,
une pause
non,
musicale?
Non, c'est pas mal déjà, tout ce que nous avons dit pour un mois d'août.
Eh bien, on va faire une pause musicale sur fond de politique économique française. C'est les Mouches Volées qui interprètent leur composition optimiste.
Je vois tout en bleu.
Optimiste.
J'ai un amoureux.
Optimiste. Optimiste.
Je vois tout en bleu. Quelques amis m'ont dit que j'étais folle d'avoir pour lui le cœur qui se décolle, d'avoir brisé ma vie de cantatrice
pour son quartier
en devenant factrice. Je vois tout en bleu.
Optimiste.
J'ai un amoureux.
Optimiste. Optimiste.
Je vois tout en bleu.
Les Mouches Volées, un groupe éminemment sympathique qui n'existe plus. C'est parce qu'ils continuent sûrement à faire de la musique sous d'autres patronymes. Si vous écoutez bien Radio Canu, le Canu Info du lundi 12 août 2013, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex. J'ai un peu de la friture, je ne sais pas d'où elle vient. Et nous abordons la rubrique nationale. Ben oui, optimiste, c'est un hommage à M. Moscovici. Ils sont fabuleux, les hommes politiques. Ils arrivent à trouver de la croissance là où il y a de la décroissance. Quand on nous annonce une croissance à moins 0,1%, il y a de quoi se rouler par terre de rire, quoi. À moins 0,1%, ça s'appelle plus de la croissance, ça s'appelle de la décroissance. Ils nous prennent vraiment pour des gogoles, hein. Alors, il y a eu une polémique là autour parce que il semble que Moscovici a dit ce qu'il croyait être juste et il a dû se faire remonter les bretelles par Pépère, même en vacances dimanche matin. Du coup, il a raconté qu'il avait un peu bafouillé la veille. L'opposition s'en est donné à cœur joie. Éric Woerth lui balançant qu'il devrait faire attention aux insolations. Bref, ça cafouille un peu, c'est pas la première fois, c'est sans doute pas la dernière non plus. Ce qui est, bon, on sait que la croissance en question, il n'y en a pas pour le moment. Ce qui est plus inquiétant pour chacun de nous tous, c'est les augmentations d'impôts annoncées. Et qui croyez-vous qu'on va taxer? Les riches? Mais non, comme d'habitude, les pauvres, les classes moyennes, on va augmenter la CSG. Alors ça peut aller de 0,1, 0,2 à 0,5%. 0,5%, cette classe, ça rapporte 6 milliards. Mais enfin, c'est 6 milliards de pouvoir d'achat en moins pour les Français. Hein. Ça permettrait de compenser à la fois les déficits des retraites, enfin en partie, et puis aussi celui de l'assurance maladie. On annonce 14 milliards de déficit en 2013. Quoi. Voilà, alors tout ça, ben, on saura à la rentrée. Pour le moment, chacun fait ses comptes et se dit que, décidément, on a un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut pour aider les plus démunis, mais qui travaille à l'équilibre des comptes, même si le FMI commence à lui dire d'arrêter, d'en rajouter sans arrêt. Il continue, lui, à vouloir rééquilibrer ses comptes d'une manière qui nous conduit justement à la décroissance à 0,1%, comme ne dit pas M. Moscovici. Voilà, tu voulais peut-être ajouter quelque chose?
Oui, ce gouvernement, plutôt, c'est ces gestionnaires de l'économie, et puis de Hollande, qui assume au sommet, eh bien, sont brocardés en quelque sorte par le FMI, puisque ils font fort, puisque finalement le FMI donne l'impression, naturellement c'est pas du tout sa stratégie, de voler au secours du peuple français, puisque il conseille au gouvernement français de limiter le recours à la fiscalité. Donc, recours à la fiscalité, ça voudrait dire que les impôts nouveaux, il n'en faut pas. Et ce que tu viens effectivement de rappeler par rapport à la CSG, eh bien, voilà que le FMI n'en veut pas. Voilà, c'est bon. Le FMI se moque royalement de la politique du gouvernement français. Il n'y a qu'un endroit qui... Et finalement, c'est peut-être ceci explique cela aussi. Il n'y a qu'un endroit qui montre qu'on ne se moque pas du tout de cette politique française. C'est la bourse qui se maintient allègrement au-dessus de la barre des 4000. C'était donc arrivé déjà depuis une semaine. Elle s'y maintient. Et si la bourse se maintient au-dessus de 4000, ça veut dire que les milieux financiers, finalement, continuent de faire confiance à la politique d'austérité de Hollande et de Moscovici.
Voilà, tu avais d'autres nouvelles politiques. Les universités d'été n'ont pas encore démarré, là. On laisse passer
ça
le 15 août.
Ça va bientôt commencer, là, oui. C'est plutôt vers la fin du mois que les politiciens et les politiques se retrouvent en vase clos, avec les journalistes souvent, quelques invités annexes, pour faire le point de cette rentrée. Alors je crois que on évoquera ça dans nos prochaines, dans les prochaines
journées, éditions. Oui. Sur le plan social, il y a un mouvement social un peu saugrenu, vu comme ça de loin. C'est les producteurs d'œufs qui ont entrepris d'attirer l'attention de beaucoup de monde, du public, mais aussi de l'État, en balançant 5% de leur production dans les rues. Ça fait quand même 100 000 œufs par jour dans les Côtes d'Armor. C'est la plus grosse omelette du monde qu'on ait jamais vue. Alors pourquoi en arrive-t-il là ? Ben, parce qu'ils sont comme... pas les seuls comme paysans, ils sont obligés de travailler, non pas pour gagner de l'argent, mais pour en perdre. Ils ont expliqué que le prix des œufs, actuellement, ils ont un coût de production à 0,75 euros la douzaine, et que les prix d'achat, les prix auxquels ils peuvent prétendre les vendre, c'est 0,6 euros la douzaine. Donc, ça laisse rêveur quand même, parce que si vous allez au supermarché, dans le meilleur des cas, vous les aurez à 3 euros la douzaine, 1,50 euro, 1,40, 1,70 les 6. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, derrière le producteur, fait 5 fois la culbute. Et c'est justement une partie de leur protestation d'arrêter d'avoir des gens qui gagnent de l'argent sur leur dos. Si on leur payait ne serait-ce qu'au coût de production, eh bien, à 3 euros, on serait encore à 4 fois la queue de butte. Ça laisse de la marge même pour leur en donner un petit peu. Il faut dire que la filière s'est organisée industriellement, poussée en cela, comme dans les autres domaines, par un productivisme insensé. On a pu voir à la télévision un gars qui expliquait qu'il avait 50 000 poules pondeuses dans un hangar. 50 000. Je pense pas qu'ils les connaissent chacune par leur nom. Hein. Mais ça veut dire, vous imaginez, il faut des machines pour gérer tout ça, aussi bien les nourrir que récupérer les œufs. Et on arrive à, comme ça, à pousser les gens. Le Crédit Agricole, d'ailleurs, dont on pourrait reparler aussi, n'est pas pour rien dans tout l'endettement de la paysannerie française vers son automatisation, et quelquefois qui conduit à des impasses, parce que à produire et à surproduire, au-delà des besoins de la population et des capacités de vente, ben, on arrive à des crises comme celle-là, où les gens, effectivement, sont capables de produire des millions d'œufs par jour, mais il n'y a pas la demande en face pour les vendre.
Et ça remet aussi en cause, mais c'est pas nouveau, le fonctionnement de tout le système coopérativiste dans l'agroalimentaire, qui de la coopérative est passé à un capitalisme, même dans certains cas, à un capitalisme sauvage.
Un petit mot de la réserve parlementaire, puisque ce petit magot qui était distribué aux parlementaires pour leurs bonnes œuvres se faisait jusque-là dans une certaine opacité. Et voilà pas que la gauche arrivant au pouvoir a décidé de mettre un peu d'éclaircissement, autrement dit de balancer là où vont les dépenses. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a qui se gavent. Hein. Par exemple, en 2011, plusieurs millions d'euros ont été versés pour les bonnes œuvres de Copé, Cassé et Barouin. Quand je dis bonnes œuvres, ça veut dire qu'en fait, c'est des sommes allouées pour les territoires dont ces gens-là, parlementaires, sont élus, pour faciliter des projets, voire les financer. Ainsi, en 2012, Cahuzac, quant à lui, a récupéré 1,4 million d'euros pour son département qu'il a investi, paraît-il, j'espère, dans 40 projets. Pendant ce temps-là, Chassaigne, un député communiste, comme vous le savez, lui n'a eu que 61 750 euros. C'est quand même 100 fois moins qu'Accoyer, alors président de la Chambre des députés, qui s'est octroyé 6,3 millions d'euros. Comme je vous le disais, donc, il y en a qui se gavent. Quoi. Alors peut-être que maintenant, quand on va publier toutes ces affectations de fonds, il y aura moins d'abus, on peut l'espérer. Ou alors, les abus changeront tout simplement de camp. Le Qatar rachète tout, paraît-il. Rachète le PSG, il rachète maintenant le printemps. C'est 3500 employés qui sont très inquiets pour leur avenir. Quoi. Et il y a une procédure par les syndicats contre ce rachat en faisant valoir qu'il s'est opéré à la faveur de conditions de commissions occultes de l'ordre de 11 millions d'euros qui auraient été versés aux anciens propriétaires. Autrement dit, c'est encore de l'argent qui est pompé sur le dos des salariés pour les capitalistes qui les dirigent.
Et on retrouve, comme par hasard, un paradis fiscal qui a fait les transactions. Il semble que tout se soit fait au Luxembourg, et en train de se faire au Luxembourg.
Voilà, avais-tu d'autres
infos ? J'ai vu que pour remédier à la crise des suicides à la Poste, puisque la semaine dernière, il y a encore... en plus, c'était un ingénieur qui, 50 et quelques années, dont on ne savait plus à quoi il servait, tellement on le baladait, s'était donc suicidé. Alors pour répondre à l'épidémie de suicide à la Poste, on a nommé un banquier à la tête de cette noble institution. On n'est pas sûr que ce soit la bonne réponse. D'autant que ce banquier, effectivement, on l'a vu à la Caisse d'Épargne, et puis on l'a vu aussi à la Bank of Scotland, d'ailleurs une banque britannique qui a eu de gros problèmes. D'ailleurs, je crois que c'était Blair qui l'avait plus ou moins nationalisé devant sa déconfiture il y a quelques années.
Il va peut-être faire prospérer la banque postale.
Bien, autre dossier lourd, on pense que pendant l'été, il ne se passera rien, mais on dit que l'étau se resserre autour de Balladur à propos de l'affaire Karachi. On se souvient que cette vente d'armes au Pakistan avait été notamment marquée par l'assassinat de plusieurs représentants et ingénieurs français. Et depuis, eh bien, ça, c'est une affaire qui traînait. Alors, c'est pas... les commissions occultes ont sans doute été octroyées à cette occasion-là. Et Balladur, d'ailleurs, avec Sarkozy était au centre de la gestion financière de la campagne électorale des années 90, enfin 95 en l'occurrence. Il est un qui d'ailleurs doit être content, c'est Pasqua qui n'aimait pas beaucoup Balladur. Parce que Pasqua, on se souvient que récemment, il a bénéficié d'un non-lieu. C'était dans l'affaire Pétrole Total Angola. Et Balladur risque peut-être d'avoir des ennuis. Bon, ça attendra l'automne parce que la justice va sans doute s'arrêter, puis qu'il y aura beaucoup de pression pour faire qu'on n'embête pas ce pauvre Balladur. On dit que beaucoup moins de Français partent en vacances à l'extérieur, s'éloignent de l'Hexagone, voire même de leur chez eux, puisqu'on apprend même que des gens vont carrément s'installer dans les campings voisins pour passer leurs vacances pas loin de chez eux. Et on les comprend, évidemment, il y a le problème des difficultés financières, mais aussi la peur panique de trouver dans la boîte aux lettres, à leur retour de vacances, une lettre de licenciement. C'est pas une blague, on sait que par le passé, ça a été la honte sous l'époque Sarkozy. On peut penser que ça sera peut-être pas la honte, mais rien n'est garanti sous l'époque Hollande.
Quelques mots de ce militaire de 23 ans qui a été arrêté en région lyonnaise, là, au prétexte qu'il préparait un attentat contre une mosquée de Vénissieux récemment ouverte. Un individu qui a sans doute mal vécu la dissolution des groupes d'extrême droite, puisqu'il y a un an déjà, à Libourne, il avait attaqué une mosquée avec un cocktail Molotov, enfin, au niveau de la porte, ça n'avait pas été bien loin, mais quand même, le voilà inculpé de détention de munitions de quatrième catégorie en relation avec une entreprise terroriste.
Mais si j'ai bien lu, il était militaire en activité.
Ah oui, 23 ans, c'est un jeune.
Mais comment ça se fait qu'il pouvait être encore militaire après l'attentat de l'année dernière?
Faudra demander à son capitaine et à son commandant et à son général.
Et puis à la justice française, oui, bien sûr. Oui, puisque il n'y a plus de justice militaire, heureusement.
Mais à mon avis, il n'est pas tout seul d'extrême droite dans l'armée.
Oui, mais de gens qui ont été condamnés et qui sont encore à l'armée,
bizarre.
Dire que même s'il n'avait pas été à l'armée, il était capable de monter un attentat quand même contre la mosquée. Mais quand même, déjà, ça fait vraiment désordre, ça.
Voilà, tu veux nous dire un mot de Mérindol, ancien journaliste du Progrès qui a passé une partie de sa vie à dénoncer ou du moins à exposer les scandales financiers et mafieux dans la ville de Lyon, en particulier sous Pradel, quoi.
Oui, qui n'en a pas souffert, au contraire, ça, il s'est fait une réputation et... Il avait des amis partout. Donc quand on a des amis partout, finalement, on n'est plus menacé. Il avait des amis chez les grands mafieux lyonnais, à l'époque grandiose, où effectivement c'était un état dans l'état à Lyon. Mais il était aussi, par exemple, ami d'un ancien grand homme de la droite. Il s'appelait Charles Béraudier. C'était un peu le Manitou des années 80, oui, je crois, 80-90, personnage de cette droite mongoliste, parce qu'il avait participé à la résistance, qui je crois qu'il a quelques médailles de résistant, Béraudier était un grand ami avec Pierre Mérindol, grand porteur au Progrès notamment, et qui a écrit plusieurs bouquins sur les affaires lyonnaises.
Voilà, alors le triangle d'été, si vous avez des velléités d'astronomie, c'est trop tard pour... je pense que c'est trop tard pour observer Deneb, Altair et Vega, les trois étoiles du ciel, qui, paraît-il, sortaient particulièrement bien de l'espace interstellaire ces derniers jours. T'as regardé ça? Non pas à la télévision, mais à ta fenêtre.
Oui, André Braik, moi j'aime bien l'entendre. Hein. C'est des gens qui vont plus... Si, c'est pas la langue de bois. Et il dit ces quatre vérités au pouvoir politique, surtout quand les pouvoirs politiques, effectivement... n'ont pas un rapport à la science, ils ont un rapport au résultat immédiat de la science.
Voilà, alors au niveau culturel, on n'est pas très bien fourni encore, hein, la rentrée théâtrale n'est pas là, mais néanmoins, il y a de quoi faire à Lyon, et entre autres ce 13 août, donc c'est demain, les balades musicales menées par Itinérance partiront de 17h à 19h de la place Saint-Vincent. Alors c'est une manifestation fort sympathique. Vous serez accompagné par des musiciens et un comédien sur un itinéraire dont il vous réserve le secret. Le groupe Itinérance, c'est Jean-Claude Guerre et puis d'autres musiciens. C'est d'ailleurs eux que vous entendez en fond sonore, avec qui on terminera ce journal. Je voulais dire aussi que le 25 août, à Fourvière, mais là vous pourrez y aller, ce sera libre d'accès, c'est dans le cadre de Lyon l'été, le dimanche 25 août de 16 à 18h, un concert musique aussi, Opus Saxtile, autour du FDA Trio. Je vous donne cette annonce du 25 parce que lundi prochain il n'y aura pas de Canu Info, donc il n'y aura pas d'autres Canu Info du lundi avant cette date-là. Par contre, si vous voulez le détail de tout ce qui se passe à Lyon et ailleurs, il vous suffit d'écouter Radio Canu le mercredi à partir de midi. L'émission Panorama Hebdo vous fera un programme à peu près complet. Voilà, Robert, avais-tu encore une petite chose à dire avant qu'on...
Oui, ce clin d'œil que le journal Humanité de vendredi a envoyé à tous les canuts du passé, du présent et peut-être de l'avenir, tous ceux qui battront pour une autre société, puisque en dernière page, l'Humanité rappelle la révolte des canuts et puis surtout évoque ce qu'a été en 1931-1934 le journal L'Écho de la Fabrique. Et je ne résiste pas à lire quelques lignes de l'article, c'est la fin de cet article. Le journal, donc L'Écho de la Fabrique, le journal sera enfin le lieu de tous les débats, traversé par les idées de Fourier, des Saint-Simoniens et des premiers socialistes. Il sera médiateur d'inventions sociales diverses. Le mutualisme et la coopérative naîtront de cette feuille, pas comme les autres. De par ce journal et la lutte des canuts, la Croix-Rousse fut bel et bien la source des futures analyses modernes, notamment marxistes, de la lutte du travail contre le capital.
Et bien sûr, ces bons mots, ce Canut Info va se terminer. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le réentendre sur Internet. Et puis, ne quittez pas l'antenne. Nous vous proposons une émission, la deuxième émission, en hommage à Henri Allègue. La lecture de son texte, de son ouvrage La Question. Voilà, bonne écoute de Radio Canut. Nous nous quittons, comme je vous l'ai dit, avec la musique de l'itinérance.